Alors, je pense, je commence par oui, monsieur Paquet. Je vais aller d'un bord puis de l'autre. Marie Martine. Je retourne de ce côté-là, monsieur Chauveau. T'es là, monsieur Long. De ce côté-là, oui, madame, c'est vous? Madame Labelle. Je m'en retourne de l'autre côté. Oui, votre nom?
Monsieur Petit.
Ah, ok, excusez, monsieur Petit.
Ça fait longtemps que c'est plus.
Ben c'est sûr, ben oui, effectivement. De l'autre côté, oui, Pascal.
Oui.
OK, Daniel. Ah, mais excusez, madame Poirier. Madame Lucie Desrosiers. Oui, monsieur Letourneau. C'est tout? Alors, on va commencer, M. Lamarche. Y a-t-il quelqu'un là?
J'aimerais vous parler de votre décision de retirer la supervision et l'entretien, en fin de compte, de Doncaster. Pour la plupart d'entre vous, que si vous n'êtes pas au courant, vous n'avez pas suivi, vous n'êtes pas là depuis des années, donc vous n'avez peut-être pas nécessairement l'historique. En 2012 environ, je vous dis 2012, c'est circa, là, c'est dans ces endroits-là, la ville de Sainte-Adèle donnait 40 000 $ par année à la Chambre de commerce pour fonctionner. Mm-hmm. Par la suite, le montant a augmenté à 60 000, 80 000 pour en arriver avec le loyer à 200 000 $ par les années passées, qui je ne sais pas s'ils sont encore à 200 000 oui. Maintenant. 200 000 $ par année. Vous avez décidé de prendre le parc Doncaster, de le faire administrer par la Chambre de commerce, il faut savoir qu'un des volets, c'était qu'on ne voulait absolument pas que ça soit municipalisé, puis qu'on se ramasse encore avec 3-4 syndiqués de plus qui vont rentrer et qui vont travailler à la Doncaster, puis les fins de semaine en temps et demi, pas en temps double, en tout cas.
Je suis très au courant.
Bon, tout le monde est au courant du dossier. Donc, pour nous, la Chambre de commerce était vraiment un patrimoine, était une organisation qui était capable de gérer le parc en question et qui s'autofinançait. Quand on dit que le profit de la Doncaster est pris par la Chambre de commerce et réparti ailleurs, oui. Et puis, je suis d'accord jusqu'à un certain point. Pourquoi?
Il y a 50% qui est réinvesti dans le parc.
Oui, 50% qui est investi dans le parc, l'autre 50%. Il faut savoir que les montants ne sont pas énormes. Quand on regarde le coût pour la dernière année, 181 844 que ça a coûté, puis ils ont fait 197 681. Mais indépendamment de ça, chambre de commerce, on va prendre le dernier mot, commerce. Vous, la municipalité, vous ramassez plus que 1 million de taxes non résidentielles. Ça, c'est une taxe commerciale qu'on avait dans le temps, qui est devenue une taxe non résidentielle. Pourquoi, si vous voulez savoir l'histoire de ce temps-là, j'étais un bon dinosaure, parce que le cinéma Pine était tanné de payer la fameuse taxe, parce que lui, il l'avait sur chacun de ses skates. Donc, on a décidé de mettre la taxe, une surtaxe sur les immeubles non résidentiels. La question en tant que telle, c'est, je ne comprends pas, puis je voudrais bien savoir qui va le gérer, ce parc-là. Puis qui va s'en occuper de façon, parce que là, il y en a deux. Il y a celui-là, puis il y a le loup-garou. Là, j'ai compris, parce que ce soir, on parlait de Doncaster, mais là, M. Huard, c'est... M. Allard, c'est accroché en disant les deux parcs. Ça veut dire qu'on s'attend à ce que le parc du Mont-Loup-Garou aussi, il va décrocher de là, puis il va être géré par je ne sais pas qui.
Le contrat se termine en 2026.
Ah, OK. Fait que moi, je me dis, j'aimerais savoir du conseil, quel est l'élément, qui est capable de me donner une raison valable pour enlever un montant, un revenu d'à peu près 40 000 $ de plus à la Chambre de commerce, qui est un organisme qui s'occupe des commerces, puis que la ville reçoit 1 million de taxes des commerçants, puis remet 200 000 à la Chambre de commerce, puis là, pour la supervision de Doncaster, 40 000. 250 000, vous ramassez 1 million. Le 750 000, est-ce que vous le réinvestissez dans les commerces? Parce que ce que vous demandez à la Chambre de commerce, ce que papa veut faire, maman veut le faire aussi. Si papa il dit qu'il faut que tu réinvestisses, bien pourquoi vous autres, vous ne réinvestissez pas notre 750 000 dans les commerces, dans des événements? Là, dites-moi pas, oui, mais on paye la police, on paye les... Non, la police, tout ça, là, que les commerces soient là ou pas là, ça ne change absolument rien. C'est tout simplement investissement de commerce. Où aidez-vous les commerçants avec 750 000 en surplus?
De toute façon, c'est dans le budget d'ensemble de la ville, il n'y a pas de...
OK. Puis, dernièrement, mais Mme Lalonde, je veux juste que vous sachiez que les chiffres que je vous donne là, vous les possédez, c'est vous qui êtes la présidente. Puis là, du jour au lendemain, pouf!
Mais du jour au lendemain, c'est pas moi qui décide, là, c'est le conseil qui décide.
Ben, en tout cas, mais là, on n'est pas capable de savoir qui décide.
Je ne veux pas me dissocier de mon équipe, mais je veux dire, c'est quand même le conseil qui décide.
Ben, j'aimerais ça savoir, c'est qui a une raison pour faire débarquer ça. Ça, c'est le premier point. Puis le dernier point, je suis dans le district 5. Mm-hmm. Dans le district 5, on a voté pour Monsieur Gagné.
D'accord.
Et là, j'ai récent, j'ai remarqué, selon, vous ne m'avez jamais vu ici, là, je n'ai jamais, je me réveille. Là. Et là, j'apprends que M. Gagné ne peut plus assister au plénier. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi M. Gagné n'a pas le droit d'assister au plénier? C'est mon représentant. Puis là, vous le pénalisez, il ne peut pas assister au plénier. Y a-t-il quelqu'un qui a passé une résolution pour que M. Gagné ne soit pas au plénier? Vous allez me dire, le plénier, c'est pas une obligation, c'est une séance régulière. Non, les pléniers à Sainte-Adèle sont pour préparer les séances régulières. Donc, il faut qu'il y ait l'information au plénier pour être capable de voter après sa séance régulière, puis de donner son feeling à ses citoyens. Moi, j'ai voté pour lui. Là, il est out.
Mais dans les obligations de la ville, M. Gagné est mis au courant de tous les dossiers. Et puis, il est même invité à venir rencontrer la DG avant chaque séance. Puis, il reçoit les documents 72 heures avant. Donc, ce qui sont les obligations de la ville face à tous les membres du conseil?
Non, Madame Lalonde. M. Gagné, s'il va rencontrer la DG, elle va lui donner sa version de ce cas-là. Sauf que la DG n'ira pas dire monsieur un tel, lui, il n'est pas d'accord, madame n'est pas d'accord, monsieur est d'accord, madame n'est pas d'accord, pour que lui fasse sa job après pour aller voir ces gens-là puis leur dire, hey, écoute, moi, donnez mes arguments, tu vas me donner les tiens, puis on va regarder, puis on va faire des affaires. Là, vous l'avez coupé de tout ça, là.
Oui, effectivement. On a coupé les discussions du démembre du conseil.
Mais quelle de ces propositions a lieu ici?
Pardon?
Quelle de ces propositions a lieu ici, là, jusqu'au plafier?
Ben, là, je crois que vous demandez à rien de sortir de
vous. Ben, c'est
toi
qui a proposé ça la première fois,
les temps. Ben non,
mais
là,
on va arrêter. Non, non, on ne veut pas.
Michel l'a rencontré, elle m'a expliqué qu'est-ce qu'elle était.
Avant, elle avait proposé la conscience du conseil, on va se plaigner, je veux dire, on va vous dire les vraies affaires.
Ben là, les vraies affaires, c'est que j'ai passé dans le bureau après avoir dit que l'entente, c'était de la mort.
Non, c'est
pas ça les vraies affaires.
De toute façon, Gaétan, lorsque tu avais décidé de te dissocier de l'équipe, tu as même fait une déclaration dans les journaux.
Oh, oui, quand j'ai dit qu'on allait avec Mme Briard.
Non, non, mais avant ça, tu n'avais pas dit qu'elle
allait. Ah, quand j'avais débarqué.
Quand que vous avez décidé de vous retirer, vous avez dit, tu sais, si je vais prendre les conséquences qui vont avec, si vous voulez que je débarque des comités, que je ne vienne plus aux réunions, je vais faire ce que vous dites. On a dit non, non, je peux continuer.
Oh, oui, ça, je d'accord.
Donc, ça n'a pas rapport avec la
non.
Donc, il peut revenir au plénier, c'est ça que vous me dites?
Non.
Merci.
Monsieur Paquet. C'est un ancien conseiller, il sait comment parler.
Bon, ben, ça va être bien facile. On parle. Tout le monde parle sur le bout des babines. Là. Moi, je vais leur demander la question. Avez-vous l'intention de donner la gestion du parc à Planège-Saint-Adèle? Un organisme de bénévoles, on s'entend. Je ne sais pas quelle sorte de structure qu'ils vont avoir pour gérer ça. C'est-tu oui ou non?
Planas-Saint-Adèle va faire la transition avec la ville, effectivement.
Bon. Mais ça c'était pas facile de le dire. On veut le donner à part ça.
Non, non, c'est pas on veut le donner. C'est pas nécessairement ça. C'est que, non. On, en fait, je vais laisser parler tout à l'heure, M. Bergeron va sûrement pouvoir vous donner d'autres explications, mais... En fait, on n'a pas décidé que parce que personne voulait qu'on donne, on l'enlève à la Chambre de commerce.
Non, je n'ai pas dit qu'il l'enlevait non plus. Je vous ai demandé si vous lui donniez. Pourquoi il n'y a pas personne qui a dit la Chambre de commerce, le prochain à qui qu'on veut le donner, c'est à Passo. On entend parler depuis un mois.
Passo va servir de courroie de transition dans la gestion du parc, effectivement.
Ça va être beau, ça. Ma deuxième question, le mois passé, on a parlé de 85 000 piastres versés à Passo.
Exact.
85 000, là, c'est de l'argent à tabarouette. Là, j'ai commencé à penser un peu. 85 000, qu'est-ce qu'on fait de 85 000? Là? On fait quoi? De l'excavation? On fait 85 000?
Ils font
ça, c'est à part des commandites qu'ils ont probablement. Puis que là, parce que ça, Saint-Adèle, là, ça en vient une business. Depuis que les astipides baissés qui ont rentré là-dedans, là, c'est la marde. C'est la vraie marde. Ça a tout fucké le système. Là. On voit qu'il y a quelqu'un qui leur place le système. C'est pas vrai. C'est du spaghetti là, partout. Là. Les mais pistes de tout le monde. Du basic, là, puis du basic. On le sait parce qu'ils sont poussés par une business. C'est correct là, que ça se fasse. Mais comme M. Gagné disait, si voilà, qu'entendez-vous, il y a deux organismes dans cette adèle. La Chambre de commerce, c'est pas ça. Ils ont deux places aussi. Là, mais ils ont leur place. C'est des bénévoles qui restent bénévoles, qui s'occupent du plein air comme dans d'autres villes le font. Je pense que c'est...
Mais il génère beaucoup, beaucoup de bénévoles de personnes.
C'est correct. Non, non, c'est pas ça que je critique. C'est de la façon que ça se fait. Là, c'est, là on dirait que tout le monde ça tire la couverte. Là. Non, tout le monde tire, puis tire. Enlever à un pour donner à l'autre, je vois pas le
ça. C'est pas question. C'est pas une question. On n'a pas en donné pour, on n'a pas enlevé pour donner. Là. Effectivement, c'est la ville qui reprend ses parcs.
C'est la ville, oui, mais c'est
temporairement utilise les services de PASA pour faire la
ville. Ils vont engager du monde, là. Ils ont des secrétaires, ils ont du monde, puis ils ont payroll, puis c'est un organisme, un OBNL.
Ils peuvent engager des gens comme la Chambre de commerce.
Oui. Ma deuxième question, c'est concernant les égouts. On a parlé, même Mme la directrice a parlé d'usine d'épuration. D'un côté, on nous parle de la Brie Nord, qui nous parle de la Belle-Rivière du Nord. De l'autre côté, notre usine qu'on est en train de bâtir à peu près 300 logements dans la ville, là. Il y en a un maudit paquet qui vont être plugués, là, sur l'égout. 300, 3 000. Ben, je dis 300, là, je suis généreux un peu, mais je suis pas trop généreux, mais je parle du centre, là, parce que les autres, il y en a plusieurs qui ne seront pas sur l'usine.
Oui, est-ce que c'est une période de questions ou une période de commentaires?
Mais c'est ça, c'est supposé d'être une
télévision. Je pose la question, là, l'usine d'épuration, avez-vous l'intention de faire quelque chose que je préfère me laisser faire?
Il y a des travaux qui se font régulièrement sur l'usine d'épuration. Normalement, on n'a pas les subventions pour aller de l'avant parce que le gouvernement juge qu'on n'a pas eu pas assez.
Oh my God! Ça fait longtemps que je n'ai pas vu se promener là, dans le marché, c'est les crottes.
Comparativement à la majorité des villes, on est même un bon élève par rapport à...
Oui, mais ça, je ne veux pas me comparer avec les autres, on va parler
de
nous
autres. Non, mais de toute façon, c'est sûr qu'on fait du mieux qu'on peut pour l'instant. Puis évidemment, le projet des côtes de 40-80, là...
Ça, c'est un beau projet.
Ça nous permet de perdre...
C'est correct. C'est une belle affaire.
Ça nous permet d'avoir plus de volume qu'on peut accepter à l'usine d'épuration parce qu'on sépare le lot du sanitaire. Donc,
Et les 5300 piastres que vous allez toucher, est-ce qu'ils vont être mis en filière commis? Les 5300 piastres par logement, est-ce qu'ils vont être mis?
Les 5200...
Sont-ils serrés à quelque part?
Ça va directement dans toutes ces...
Ça va exactement dans toutes ces...
Parfait. Merci beaucoup.
Madame Bédard.
Bonsoir tout le monde. J'avais beaucoup de questions, puis vu qu'on a le droit à une question, mais j'ai plutôt décidé de vous exprimer un genre de petit plaidoyer ce soir. Et voilà, donc je prends la parole en tant que citoyenne préoccupée par le fonctionnement démocratique de notre ville. Et je souhaite attirer votre attention sur un enjeu fondamental, l'accès à l'information et à la participation citoyenne dans les décisions municipales. Actuellement, l'ordre du jour est rendu public le vendredi à midi.
Exact.
Et en même temps, on doit déposer nos questions pour le vendredi midi. Ce qui, autrement dit, nous sommes comme sommés de poser des questions qui sont en décalage avec les dossiers courants. Donc, c'est pour le fonctionnement, ça ne marche pas et c'est très frustrant en tant que citoyenne. OK? Puis, comment pouvons-nous, en tant que citoyens, exercer notre droit de regard sur les décisions municipales si nous sommes privés d'un accès adéquat à l'information? Parce que ça ne nous laisse pas le temps, les fins de semaine, de demander quoi que ce soit. Comment pouvons-nous poser des questions pertinentes si nous sommes pris dans un cadre administratif qui, de toute évidence, ne permet pas un réel échange démocratique? C'est mon impression. Ajoutons à cela une autre limitation injustifiable. Lors du Conseil, même si je vois que ce soir c'est un peu différent, chaque citoyen n'a droit qu'à une seule question. Pourquoi restreindre ainsi la participation citoyenne, alors que la démocratie municipale repose précisément sur le dialogue entre les élus et la population?
Okay.
Question, j'achète. Ces pratiques ne servent... Oui, mais ces pratiques là, ne servent ni la transparence ni l'intérêt général. Elles donnent plutôt l'impression totale contradictoire avec l'imprincipe démocratique que nous sommes en droit d'attendre de notre administration locale. Alors, je vous demande donc, au nom de la démocratie et du respect des citoyens, que l'ordre du jour soit publié plus tôt, idéalement plusieurs jours avant l'échéancier limite des dépôts des questions, afin que les citoyens puissent réagir en connaissance de cause, que la limite d'une seule question par citoyen soit abolie afin de permettre un véritable échange entre les citoyens et vous, les élus, et que des mécanismes de consultation plus ouverts et plus accessibles soient mis en place pour garantir que les voix des citoyens soient entendues et prises en compte dans les décisions. Nous sommes nombreux à vouloir nous impliquer activement dans notre municipalité. La participation citoyenne ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais bien comme une richesse qui renforce la légitimité et la qualité des décisions prises par cette administration. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ces préoccupations seront entendues et prises en compte dès maintenant afin de favoriser un épanouissement sain de notre ville et de notre vie citoyenne. Devenons un exemple à suivre plutôt que d'encourager un climat de cynisme face à la démocratie. Merci. Le changement commence ici et maintenant. Voilà.
Permettre
C'était
super intéressant comme proposition. Nous-mêmes, on reçoit l'heure du jour le vendredi à midi, donc je ne sais pas.
ça se fait ailleurs. Ça se fait ailleurs. La ville de Montréal le fait, puis ils ont beaucoup plus de dossiers à gérer.
Que les choses soient plus accessibles et faciles à faire en ligne sur le site web. Donc, c'est vraiment notre volonté. Par rapport à la période des questions, nous, on s'est limité à une période des questions comme pratique courante.
Bon, je peux vous donner un autre exemple. Trois interventions possibles en moyenne.
Je vais juste expliquer. Parce qu'on a reçu souvent le commentaire que les périodes des questions étaient trop longues et que les gens, à la fin, qui voulaient attendre pour poser leurs questions, c'était trop long. Donc, nous, ce qu'on a offert comme solution à ça, c'était de proposer que nous, les conseillers, on reste sur place après la séance plutôt que les
Mais je comprends. Et
que là, les gens puissent nous poser des questions.
Je comprends et je pense que si l'heure du jour était déposée plus tôt, la mairesse pourrait recevoir des questions à l'avance et ça libérerait aussi l'espace aux questions. Et puis, en général, dans les autres municipalités, oui, c'est une question, mais jusqu'à trois interventions pour que le dialogue s'installe.
Ben, est-ce que les conseillers restent après pour répondre aux questions de tout le monde?
Oui.
Oui. Moi, je peux vous dire qu'on est très permissif par rapport à d'autres municipalités parce que le 30 minutes là, qui était indiqué, on ne l'a jamais observé.
Okay.
Il y a des municipalités qui ont une cloche qui sonne.
Ah oui? Oui. Ben, bravo pour ça, mais il y a toujours place à amélioration.
On a toujours essayé d'essayer de donner la chance à tout le monde de parler, mais il faut comprendre aussi qu'une séance du conseil, ce n'est pas une séance de débat, c'est un endroit d'information pour donner de l'information. C'est une séance d'information.
Alors, c'est où dans la démocratie municipale, le dialogue?
Il y a des règlements, par exemple, que des consultations publiques sont organisées. Là, il y a un comité qui travaille maintenant sur les modifications de la politique pour les aînés et les choses. Il va y avoir des consultations publiques qui vont être faites. Là, le PPU, il y a des consultations qui sont faites. Il y a des événements sur lesquels la Ville organise automatiquement des consultations publiques lorsque ça touche carrément la vie du citoyen. Par exemple, lorsqu'on travaille maintenant sur la mobilité active, quand il y a déjà eu une séance d'information, de consultation sur la mobilité active, il va en avoir d'autres encore quand le comité va arriver et va déposer son projet. Alors, il y a des consultations publiques, il y en a régulièrement sur des sujets qui touchent l'ensemble des citoyens aussi.
En tout cas, si on peut déposer l'ordre du jour bien avant, ça peut sûrement être mieux.
Moi, je suis une fille en communication, puis on est plusieurs en communication. C'est sûr, pour nous autres, c'est important aussi. Puis on essaie de trouver des mécanismes pour aller plus vite, pour donner les informations plus rapidement. Mais écoutez, je suis en ligne de compte ce que vous avez dit, puis on va sûrement en jaser.
Merci.
Monsieur Chauveau.
Bonjour à vous. Parlant de démocratie, j'ai vraiment besoin que vous m'expliquiez pourquoi vous nous avez empêché de poser des questions sur le projet du Bord du Lac au mois de décembre.
Parce qu'on avait dit, parce que moi je trouvais que tout ce qui avait été dit, on l'avait répété, on répétait toujours les mêmes choses. Puis maintenant on s'est dit, il faut arrêter ça quelque part. Là. Puis on a décidé à ce moment-là que c'était que tout ce qui avait été dit avait, tout ce qu'on avait à dire avait été dit et que de toute façon, les réponses ne semblaient pas être celles que les gens voulaient recevoir. Donc, à un moment donné, on a dit, garde, on arrête ça.
Alors, dites-moi, comment est-ce que ça fonctionne, la démocratie? Si, lorsqu'on vient poser des questions, vous nous dites à l'hôtel de ville, à la demande de Mme la directrice générale, de faire des demandes d'accès à l'information, alors nous, on fait des demandes comme bons citoyens, on attend le temps. Puis lorsqu'on a accès à l'information, on revient ici, puis on dit, excusez, là, on vient d'avoir on aimerait s'en parler. Puis lorsqu'on fait ça, vous nous dites, on ne veut plus en parler. C'est quoi cette démocratie? Comment ça fonctionne?
Mais ça veut dire qu'on n'avait pas à expliquer les dossiers qui sont d'accès à l'information.
Contrairement à ce que vous avez dit à Mme Poirier, qui s'est tuée à essayer de vous expliquer, on est capable de lire des documents. Puis si on ne les comprend pas, on va chercher de l'expertise à l'extérieur. On peut faire ça, on n'est pas bête. Ce qu'on remet en question, c'est à la lumière de ces documents-là, vos décisions. Puis là, on vous demande, écoutez, on a les documents devant nous, comment avez-vous, avec des documents comme ça, pris ce genre de décision-là? Et puis, quand on vous pose ça, vous dites, on ne veut pas en parler. Alors, tout le monde est inquiet ici au niveau du département d'urbanisme. Je vous le dis, là, on a parlé à tout le monde, là, tout le monde capote. Là. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce système-là? Comment ça fonctionne? Là, on vous a envoyé, on essaie d'être des citoyens convenables, on vous a envoyé toutes nos questions, toutes nos recherches, on a passé des semaines à faire ces recherches-là, on vous envoie ces questions-là, on n'a aucune réponse de votre part. Alors, comment vous expliquez ça? Comment est-ce que vous voulez que nous, comme citoyens, on se sente concernés, respectés, entendus par vous? Comment ça marche?
Mais les courriels ont de répondre, je pense.
Il n'y a personne qui n'a jamais répondu à nos questions. Puis je peux vous la poser là. Une question très simple. En 2011 et 2022, vous avez 4 rapports d'ingénieurs qui disent qu'il y a un ruisseau. 5 mois plus tard, vous avez un petit document qui dit que c'est un fossé.
Mais c'est le dernier qui l'est posé.
Et votre administration, qui n'a aucune compétence dans le domaine. Il n'y a personne ici, personne, dans toute l'administration, dans votre département d'urbanisme, qui a de compétences dans le dossier, et dans une semaine, dans une petite réunion en bas ici, vous avez pris la décision de détruire un des seuls cours d'eau qui protège le Lacron, sans même aller demander de questions nulle part ailleurs. Là. Fait qu'il y a 4 documents qui disent qu'il y a un ruisseau sur 10 ans. Un document qui soudainement sort, puis on ne sait pas de où, hein, parce que même les plans qui ont été déposés à la ville pour le projet, la bande de rive est respectée. Puis là, à un moment donné, hop, il y a un document, on ne sait pas de où il sort. Puis il y a une réunion, puis vous, les gens d'ici, décident que c'est un fossé alors qu'ils n'ont aucune compétence pour le faire. Alors, moi, c'est ça la question que je vous pose. Qui a pris cette décision-là?
Bien, écoutez, nous, comme j'ai déjà dit, dans tout projet qui nécessite des expertises de caractérisation d'ingénieurs, etc., c'est le promoteur qui se charge de fournir les expertises.
Mais tout au Québec, les fossés, c'est tout dans ces
lycées. Donc, à chaque fois, parce que ce n'est pas la ville qui va faire les expertises, c'est les parlementaires, ça a toujours été comme ça. Il n'y a que des ordres professionnels, il y en a qui n'ont pas. Ceux qui n'en ont pas, je comprends qu'on peut les contester assez facilement. Je parle des biologistes en particulier. Mais moi, la question que j'ai posée, j'ai demandé, parce que, évidemment, la façon de fonctionner, c'est lorsqu'un promoteur fait un projet, il doit arriver avec son projet, il doit arriver avec les études qu'il a à faire, parce qu'on lui demande certaines choses, puis on se fait ces études-là pour accorder ou non les permis. Par exemple, si, par exemple, on nous dit qu'au niveau de l'égout, le débit est de tant de volume et que ça correspond à notre capacité, on va accorder un permis. Si ça ne correspond pas, bien, on n'accordera pas de permis. Donc, ça part de là, la première des choses. Deuxièmement, concernant le dossier en question, j'ai posé moi-même la question aux gens d'urbanisme. J'ai dit, il y avait des dossiers, il y avait des études préalables 2011-2012. Études préalables. J'ai dit, habituellement, comment vous fonctionnez? Ces études-là qui ont lieu il y a 10 ans ou 8 ans, 9 ans, vous en tenez, on m'a dit, ben regarde, on n'était pas là à ce moment-là, on ne peut pas juger de la pertinence vous de permettez. Cette époque-là. Je vous dis...
Non, mais vous permettez, excusez-moi, en 2022, il y a eu 2 études qui ont été mises, une au mois de juin, puis une au mois de novembre, dans la même année. Ces 2 études-là ont été demandées par la même personne. Il y en a une qui dit qu'il y a un ruisseau, puis celle, 5 mois plus tard, dit « il n'y a plus de ruisseau ». Ça, ça ne sonne aucune cloche, là. Vous trouvez ça normal? Il y en a une de 220 pages qui dit qu'il y a un ruisseau au mois de juin, puis une de 50 pages au mois de novembre qui dit que c'est un fossé. Puis Là, vous, devant un tel constat, on ne fait pas, même pas juste « wow, on va aller chercher de l'expertise, on va aller se demander quelque chose parce que vous ne l'avez pas, cette expertise-là ». Non, vous donnez le permis pour détruire la bande de rive. C'est une décision absurde dans le contexte de vouloir préserver le lac Rhône. C'est absurde.
Une question pour vous, monsieur.
Oui.
Parce que là, moi, j'ai vu les études. J'ai vu une étude de 2011, une étude de 2016, une étude de 2022. Entre les études de 2011 et 2016, ils reprennent les mêmes cartes essentiellement.
C'est une mise à jour environnementale qui représente exactement le même travail que de faire une étude environnementale.
Entre 2016 et 2022, c'est 2016, il y a un tracé d'un cours d'eau qui est le tracé d'un cours d'eau. 2022, il y a une construction qui est apparue à l'endroit où avait le tracé du cours d'eau. Puis à cette construction-là, il n'y a pas de bande riveraine. Le fossé, il passe à un mètre de cette construction-là.
Mon cher monsieur,
ça devrait être un fossé parce qu'il y a une construction à côté. C'est juste ça que je me dis. Je présume rien, mais c'est ça que je me demande. C'est une question, en fait.
Très bien, je vais vous répondre à votre question. On est encore plus furieux. Parce que, logiquement, nous, lorsqu'on a acheté cette propriété-là, en 2013, on a été voir un arpenteur, on lui a demandé, est-ce qu'on peut installer notre garage, là?
OK.
L'arpenteur, il a dit oui. Oh, alors, nous, on a fait des plans, on a été convenables. On est venu vous déposer ces plans-là. Et votre responsabilité comme administration, c'est de nous dire, vous ne pouvez pas, parce que c'est un ruisseau. Moi, je ne peux pas le savoir. Personne ne peut le savoir. L'arpenteur ne peut pas le savoir. Les seuls qui le savaient, en fait, c'est votre administration, parce qu'en 2011, Génivard avait fait une étude. Puis qui avait dit que c'était un ruisseau. Et malgré ça, vous nous avez donné le permis. Alors, même pour ça, ça représente l'incurie de la part de l'administration municipale.
Je l'ai trouvé l'étude. Il est fait 2011-2012, je
ne peux pas être devant de ça. Non, c'est l'administration de la ville, ce n'est pas vous, je suis d'accord. Puis moi, arrêtez de croire que nous, depuis 4 mois, on vient ici comme des ennemis. On aurait aimé être justement en participation. On a fait un travail, on a passé des nuits à étudier des documents pour comprendre, pour savoir. Puis là, on a trouvé des choses grossières et vulgaires. Puis ces choses-là, on a voulu, en toute transparence, vous les transmettre. On vous les a envoyées par email. On n'a pas été partout chialés. On vous les a transmis en premier plan, en vous demandant, est-ce qu'on peut vous rencontrer pour en parler? On n'a rien su. On n'a pas eu de réponse. On n'a pas eu de rencontre. On n'a rien eu. Puis là, lorsqu'on communique avec vous, votre administration nous dit, on leur a dit de mettre le projet sur le hold parce que le ministère de l'Environnement est en train de faire une étude. Mais c'est parce qu'on les a appelés qu'ils font une étude. Parce que si ça avait été de vous, tout ça aurait été détruit. Puis encore une fois, ce n'est pas à vous, les membres du conseil, mais ce que je dis haut et fort, c'est qu'il y a un énorme problème au niveau du département d'urbanisme à Sainte-Adèle. Puis il va falloir que vous l'adressiez d'une façon ou l'autre, ne serait-ce que l'historique de votre ancien directeur d'urbanisme, hein, avec sa réputation et tout le tralala. Là, il va falloir faire quelque chose là-dedans, là, parce que tout le monde ici capote.
Mais sans aller trop loin, on travaille actuellement sur le service d'urbanisme pour voir améliorer la qualité du service et puis de l'accessibilité. Je ne peux pas vous en dire plus, mais soyez assurés qu'on travaille là-dessus.
D'accord. Mais quand des citoyens comme nous faisons un effort pour venir vous voir, s'il vous plaît, tendez-nous la main. Parce que là, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé.
Merci, M. Chauveau.
Ça se revitalise-tu le bord du fossé ou du ruisseau en demandant aux promoteurs? Peux-tu revitaliser pour que tout le monde soit conscient? La ville peut peut-être demander aux promoteurs pour que tout le monde soit content de revitaliser l'image.
Excusez.
Non,
cet endroit est rendu une route de
merci. Merci de votre intervention.
Merci.
Monsieur Hubert.
Alors bonjour, bonsoir, Benoît Huard, je suis ici comme représentant du mouvement pour la protection de la nature et des louanges. Vous avez vu qu'on avait lancé ce mouvement-là, on est rendu à peu plus de 200 adhérents à notre mouvement. J'ai des questions pour vous qui sont d'un autre ordre, disons. Je vais commencer par la première, aimez-vous la nature?
Bien sûr, oui.
Oui?
Mais oui.
Oui, tout le monde?
Oui.
Parfait. Croyez-vous que la nature fait partie de l'identité de Sainte-Adèle?
C'est sûr, oui.
OK, ça va bien. Continuez comme ça. Continuez à me dire oui tout le long, ça va bien aller. Pensez-vous qu'on devrait faire tous les efforts possibles pour la protéger, notre nature?
Effectivement, oui.
Oui?
Ben oui.
Non?
Ben oui.
Non.
Écoutez, continuez.
OK. Si vous croyez qu'on devrait la protéger, notre nature, avez-vous fixé des objectifs dans ce sens-là?
En fait, au fur et à mesure qu'on découvre qu'il y a des choses, des anomalies, comme par exemple, évidemment, dans un périmètre urbain dont fait partie le secteur dont vous parlez.
Non, moi, je ne parle pas d'un secteur à partir
dans un périmètre urbain, normalement, le déboisement est permis à 100%. Sauf que dans le périmètre urbain dans lequel on se trouve, il y a un lac. Effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des lacunes à ce niveau-là. Puis on a commencé à travailler sur la modification du règlement à l'intérieur du périmètre urbain pour augmenter les protections en matière de déforestation et de secteur vert.
Et puis,
le déboisement et de protection de l'environnement. Donc, on a l'intention d'adopter des mesures pour restreindre la quantité de déboisement. Ensuite de ça, dans d'autres secteurs, il y a des endroits où on exige 70% de protection de la foresterie, de la partie boisée, d'autres endroits c'est 50%, dépendant des règlements en vigueur, dépendant de s'il y a des égouts, s'il n'y a pas d'égouts, s'il y a des chutes, des caducs. Donc on tient compte de tout ça. Puis moi, personnellement, tout ce qui s'appelle l'étalement urbain, si on peut adopter des règlements pour empêcher l'étalement urbain, puis je pense que c'est important. Par contre, lorsqu'on parle du périmètre urbain, le périmètre urbain, c'est centre-ville. Si on a à faire du développement, c'est là qu'on doit le faire et non pas à l'extérieur, à 15-20 km là, du centre-ville.
Mais moi, je ne vous parle pas de périmètre urbain. Moi, je vous parle de l'ensemble,
ouais, mais
je parle de l'ensemble du territoire de la ville. Ce serait quoi un objectif que vous auriez en termes de pourcentage de milieux naturels qu'on devrait protéger à Sainte-Adèle?
Mais de toute façon, ça dépend des secteurs, comme j'ai dit.
Non, mais pour l'ensemble de la ville. Là,
pour l'ensemble, je ne sais pas.
Est-ce que 30%, ça me semble raisonnable?
C'est sûr que 30%, c'est dans les objectifs, c'est dans les nouvelles orientations du gouvernement même. Puis c'est quelque chose, on n'a pas de politique, on n'a pas de plan spécifique en cet égard-là. C'est quelque chose qui va... On n'a pas de département d'environnement en tant que tel, juste le département d'urbanisme et environnement. Et il nous manque de ressources pour faire un plan, justement, de protection des espaces naturels à cette jonction. On espère être capable d'aller là.
Ben, j'aime bien. J'aime beaucoup le commentaire, la réponse, parce que je viens ici pour vous poser la prochaine question.
Monsieur Roche, juste si je peux me permettre, parce qu'on en a parlé à quelques autres séances, mais là, la ville, on est en processus avec une firme qui s'appelle Helio. Donc, on est dans une démarche pour être certifié éco-responsable, mais c'est aussi un travail qui se fait de planification stratégique dans le but d'avoir éventuellement un département en environnement. Ça sonne drôle, le département en environnement, mais c'est juste d'avoir une directrice de l'environnement qui, justement, va nous aider à mettre en place une politique claire vis-à-vis de l'environnement, nous aider justement dans tout ce qui est recherche de subventions pour acquisition de terrain pour la conservation, qui après va justement nous aider à intégrer toutes ces démarches-là à travers les différents départements et ce qui va nous aider dans tout ce qui est la révision du règlement d'urbanisme. Donc c'est un travail qui est en cours. Avec Helio, ça prend un an, mais c'est déjà entamé. Donc toutes ces réflexions-là ont lieu en ce moment, puis c'est dans le but de...
Mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. On est conscient des efforts qui ont été faits dans les villes voisinantes, comme Saint-Sauveur et Saint-Hippolyte, par exemple, qui ont des plans de conservation des milieux naturels. Puis c'est un exemple très inspirant. On n'est pas rendu là encore, malheureusement, mais regarde ce qui se passe là.
Mais que diriez-vous de former un groupe de travail avec les organismes locaux, les citoyens, les élus, les fonctionnaires? Mettre tout ce beau monde-là ensemble, des consultants extérieurs, peut-être même la firme que vous mentionnez. Qu'est-ce que vous diriez de mettre tout ce monde-là ensemble, qu'on ferait un groupe de travail, puis on en sortirait de là avec des objectifs puis un plan pour protéger les milieux naturels?
Mais d'ailleurs, comme elle a dit, on travaille beaucoup sur ces choses-là. D'ailleurs, on a créé une réserve financière d'un maximum de...
Un million.
Pour justement l'environnement. Et parallèlement à ça, on a adopté, l'adoption du budget, une somme de 100 000 $ qu'on mettait immédiatement en environnement, qui va s'accumuler pour qu'on puisse...
Mais l'environnement, c'est très large. Ça inclut toutes sortes de choses.
Non, ça inclut toutes sortes de choses.
La collecte des bacs, c'est l'environnement.
Non, c'est sûr.
Moi, je parle de protéger les milieux naturels.
Quand on parle de
plutôt que de détruire la forêt, la conserver.
Quand on parle de département d'environnement, on ne parle pas nécessairement des bacs ordures, puis on ne parle pas nécessairement des auto-électriques, là, ça, pour la ville.
Ben, ça, moi,
on parle vraiment de la qualité de vie des citoyens, puis aussi... Écoutez, Sainte-Adèle, dans mon livre à moi, puis ça demeure ça, là, Sainte-Adèle doit conserver sa dimension champêtre, ça fait partie de sa force, ce qui la caractérise, mais ça n'empêche pas le développement, c'est là où il doit être, où il doit avoir lieu.
Bon, entre-temps, jusqu'à ce qu'on ait un plan qui peut-être va venir avec la firme que vous proposez, qu'est-ce que vous diriez d'imposer un moratoire pour empêcher la destruction des milieux naturels restants?
Ça fait partie des sujets de discussion pour nos prochaines assemblées, le développement résidentiel à Saint-Adèle. Okay. On songe, en tout cas, à mettre
sur pause. Est-ce que les citoyens vont être... Est-ce que les citoyens vont être... Allez-vous impliquer les citoyens dans ces discussions?
Si on décide de mettre sur pause, si tout le monde est content.
Monsieur Hall, quand vous parlez de destruction, on va poser une question. Ça en doit faire pour vous, c'est une destruction?
Moi, je parle de destruction de milieux naturels. Le Chanteclair, c'est un milieu plus tout à fait naturel. On s'entend, parce qu'un milieu naturel, il y a de la biodiversité là-dedans. La biodiversité peut évoluer comme elle l'entend, sans intervention humaine. Dans le Chanteclair, il y a beaucoup de présence humaine. C'est mieux ça que de l'asphalte. On s'entend, je suis bien d'accord avec vous. Là.
Mais dans un monde idéal, moi, j'en avais déjà parlé avec M. Bergeron, je voulais des terrains maintenant à Sainte-Adèle. Tu sais, dans le lac Pilon, il y a un peu de place, je pense, il y a des terrains, des places. Que j'aimerais ça dans mon rêve, peut-être, mais que ça devienne justement ça. Et non pas des places que parce que ça devient un parc, les vélos arrivent là, les raquettes. Moi, j'aimerais ça que ça soit protégé. Une zone protégée, vraiment.
La conservation.
Le loup-garou, c'est protégé, une façon de parler. Ouais. Là, il y a tellement d'humains que là, on parle de parler, ça, c'est des parcs pour faire de la vie, mais un jour. Parce que, tu sais, d'être un rêve utopique, moi, on parle du Chanteclair. On fait une affaire publique, là, ceux qui se déplacent, normalement, qui ont le goût de se déplacer, ils ont intérêt à se déplacer parce que c'est des gens de plein air, c'est des gens. Moi, je peux appeler M. Goupil et dire, il m'a donné 13 millions pour ton terrain. Moi, je vends. En haut du golfe Alpine, le grand terrain qui appartient aux Chinois. Si moi, la société de Sainte-Adèle me dit, dépense mon grand, puis bloque-moi ça, puis ben 40-50 millions de dettes à la ville, moi, le compte de taxes à Louville, il va monter, puis c'est ça. Là, c'est un choix de société. Là.
Ben,
comme votre région où ce que vous êtes, ça aurait pu être protégé.
Ce que vous dites, là, c'est qu'il y a une option. C'est d'acheter les terrains.
Bien, ça, c'est le best, c'est sûr.
Oui, mais ce n'est pas la seule option.
Non, pas
c'est seul, pas la seule option.
Pas seul.
Excusez, il y a beaucoup de monde qui veulent parler.
Oui, je comprends. Je ne veux pas prendre... J'ai pris des choses en deux.
Il y en a 14 en tout.
Ouais. D'accord. Merci de m'avoir écrit.
Merci. Vous avez des bonnes suggestions, M. Madame Labelle?
Alors, bonsoir. Je pense qu'on le voit tous, Sainte-Adèle est vraiment dans un point tournant majeur au niveau de toute son expansion. C'est déjà démontré que la ville de Sainte-Adèle, c'est la ville en plus forte croissance dans la MRC. Donc, je pense qu'on a un heureux problème entre les mains parce qu'il faut prendre les bonnes décisions pour notre futur. Juste ce soir, là, les projets que j'ai entendu parler au niveau de développement immobilier, on parle à peu près de 660 portes. Ce qui veut dire à peu près 2000 personnes qui vont s'ajouter. à peu près 400 nouveaux étudiants. Et donc, on a vraiment, vraiment besoin d'étudiants. Si on met 20 % d'entre eux, ce seraient des étudiants.
Ah, okay.
C'est tous ces gens-là qui s'ajoutent. Donc, il faut vraiment penser au niveau des infrastructures, au niveau des écoles, au niveau de la santé, routiers, on nomme. Moi, j'ai une question pour vous qui est importante. Est-ce qu'on a une vue d'ensemble de tous les projets immobiliers en cours et prévus pour les deux prochaines années? Est-ce qu'on sait exactement le nombre de portes qui vont s'ajouter? Puis est-ce qu'on a une cartographie également de ces projets-là?
Ça fait partie des démarches qu'on parlait avec notre nouveau site web, qu'on ait une section puis qu'on voit évoluer les projets qui s'inscrivent à Sainte-Adèle. Et puis, effectivement, une remarque que je faisais quand même à plusieurs, c'est que depuis 2022, il ne se passait rien. On ne voyait pas grand-chose. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des projets qui ont été acceptés début 2022, milieu 2022, début 2023. Mais ce qui se passait avec les taux d'intérêt qui ont grimpé, tous ces projets-là qui avaient reçu des autorisations ont tous attendu de faire les demandes de permis.
Oui.
Ce qui fait qu'on se ramasse en 2024. Tous ces projets-là, ils explosent d'un coup sec quand normalement, ils seraient peut-être échelonnés dans le temps. Ça, c'est une des problématiques. Puis quand je l'ai dit, là, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de projets à Sainte-Adèle, puis on veut discuter de voir comment on peut apaiser tout ça, ce qui se passe dans le moment, puis faire des meilleures études de circulation, etc., pour pouvoir décider après ça vers où on s'en va. Mais c'est sûr que c'est des choses qui sont dans les papiers.
Je pense qu'il y a aussi le pouvoir des attirer, ces gens-là.
Oui.
Ben, c'est beau, là. Je vous dis, là, il y a eu le COVID, là. Tout le monde rêvait à la campagne, le Nord, puis la belle vie. Là, ça a fait, le monde est devenu un peu normal. La panique a arrêté de poigner. Tu sais, pour vous donner un exemple, au Mont-Olympia, il y avait un beau projet en bas, là, 120 belles maisons, puis tout. Le gars, il a vendu son terrain, là, un mois, 8 millions, parce qu'il en a construit deux en 3 ans. Je peux bien vous donner les portes qu'on pense qu'il va se faire, mais moi, M. Raymond, en tout, c'est 72 portes peut-être. Il y a 14 maisons de construit, puis moi, je vous le dis, ça va prendre des années et des années. Là. Parce que des maisons à 1 million dans le bois, c'est pas tout le monde qui a moyen de payer ça. Sur ce qu'on développe beaucoup, c'est à une minute de marche du centre-ville, quasiment. Je regarde les blocs là-bas, je regarde le site, mais à l'extérieur, ça a beaucoup ralenti. En gros, on a bien des, tu sais, les gars, des bien des fois, à un moment donné, j'étais au CCU, je me disais, c'est wow. Tu sais, le relief nord, pour te donner l'exemple, je ne sais pas c'est combien de portes.
250.
Hey, avant qu'il y ait 250 portes, c'est un peu, ou en tout cas, sceptique un peu. C'est pas tout le monde qui veut vivre à Sainte-Adèle. Pas parce qu'on a des blocs, à moins que les logements plantent, puis le prix se vienne hyper abordable. Mais je pense pas que ça serait la...
Mais il faut quand même être dans une position proactive
et
avoir déjà une vision. Et ça, justement, le fait qu'on s'en va en campagne électorale, Madame Lalonde, je pense que vous avez une fin de mandat qui pourrait être très embellie si vous mettez déjà sur table qu'on a quand même des enjeux importants au niveau de l'urbanisme. Il faut porter une attention particulière au niveau de l'environnement et de faire un moratoire comme vous le portez, que cette attention-là sera extrêmement importante justement pour assurer l'avenir de notre ville. Je dois vous avouer, moi j'habite...
Est-ce que je l'ai dit dans le coup?
Non, elle dit l'avenir
de notre ville. De notre ville?
OK, l'avenir de...
Ah oui.
Oui. Okay. J'habite tout juste à côté de Bourg-du-Lac. Ça, je pense, c'est un exemple concret où il y a eu un manque d'informations flagrant au niveau des citoyens. Du jour au lendemain, la forêt a été complètement abolie. Je pense qu'on a vraiment un travail à faire pour s'assurer que ces projets-là soient annoncés de façon extrêmement transparente. Je n'aurais pas fait les démarches auprès du ministère de l'Environnement. Je n'aurais pas fait les démarches au niveau de la ville pour aller chercher toutes les informations requises si tout avait été là devant moi et que j'aurais été confiante que c'était fait de bonne façon. Donc, puis l'autre question que j'ai aussi à vous poser, c'est au niveau de Bourg-du-Lac. Le milieu humide a été affecté récemment. Il y a 2 semaines, on avait l'appel qui était là dans ces lieux-là. Il y a eu des appels qui ont été faits à Urgence Environnement pour s'assurer que tout était fait en bonne et due forme. Comment, au niveau de la ville, vous allez retourner vers ce milieu humide-là pour s'assurer que tout est conforme et beau et qu'il n'y aura pas, justement, des réparations, des actions correctives qui devront être portées parce que c'est un lieu de filtration des eaux qui est extrêmement important pour la
Lafond. Le milieu humide, le promoteur, il ne touche pas. La seule du seul moment pour y acquérir. Il a obtenu une autorisation du ministère de l'Environnement, étant donné que les infrastructures de la ville passent là, il y a eu l'autorisation d'aller se brancher sur les infrastructures.
Mais je suis désolée, mais j'ai des vidéos à l'appui, puis il était vraiment dans le milieu humide.
Non, non, il passe dans le milieu humide pour aller se brancher.
Exactement, exactement. Mais il faut regarder les dommages qui ont été créés et de voir quelles sont les actions.
Il faut faire installer ces...
Exact.
Ensuite,
je suis d'accord avec vous.
Ça va tout revenir normal, là, ce secteur-là, parce que là, ça va... Ben oui.
Il y aura peut-être des actions correctives à porter, puis je suis curieuse de voir comment la ville va les prendre.
Parfait.
Mais vous savez, toutes les villes, ce défi-là, je regarde à Laval, ils vont construire 10 000 logements, 100 000 personnes de plus. Moi, ma fille est à l'hôpital de la Cité de la Santé. Il y en a qui disent, ouais, mais là, ça se développe dans le Nord, il faudrait que ça s'intègre. On est à 200% de dépassement. Tout le monde est poigné de main, puis le gouvernement n'aide pas assez les municipalités. Ben, on n'a pas d'argent. Non. Faut arrêter, c'est ça. Il y a 11 milliards de dettes au Québec. Tu sais, l'école, elle a été cancellée, là. Mm. Pas parce qu'on n'a pas de vision de l'avoir, l'école. On
n'a
pas de terrain et tout. Non, mais c'est retardé. C'est l'argent tout le temps qui mène pour le gouvernement. C'est triste.
Oui, mais on doit...
Il y a le monde qui couche d'or, là. Ça se bombe la pied du Nord. Je ne veux pas qu'il couche d'or, moi, là, ce soir.
Non,
mais je pense qu'on va un peu trop loin, mais il y a vraiment lieu d'avoir les reins assez solides et de prendre les bonnes décisions. Merci.
M. Pelletier.
Bonsoir à tous. Content de vous retrouver. Je sens qu'on n'a pas besoin de système chauffage ici. Les débats sont très chauds et colorés. En tout cas, je vois que M. Bonsoir à tous. J'ai une question et une proposition. Alors, si vous permettez. Première question, c'est concernant l'ordre du jour point 11.4. Moi, je suis arrivé tard, je m'en excuse, j'avais des obligations externes. Mais j'ai manqué un peu le bateau à ce niveau-là, mais là, il y a eu une espèce de tollé. Il y a des questions que vous avez permises de poser. Puis, ce qu'on a entendu, c'est qu'il va y avoir une séance de consultation, je crois, le 4 mars, ici, ou à Place du Citoyen, déterminée. Puis donc, ce n'est qu'une présentation. Mais ce que j'ai entendu, ce qui me perturbe un peu, c'est que j'ai entendu qu'on fait juste approuver le projet. Ça, j'ai pas aimé ça, là. Qu'est-ce qu'on veut dire par j'approuve le projet?
En fait, c'est la procédure normale pour un nouveau règlement. On commence par un avis de motion qui est suivi d'un projet de règlement.
Un projet de règlement.
Après le projet de règlement, il y a une consultation.
D'accord. OK.
C'est comme un projet de loi.
OK. Merci de la précision. Alors, mais je suis quand même préoccupé parce que là, on parle d'un changement de zonage pour, je crois, le secteur du développement du golfe alpin.
Exact.
Et ce qui me vient me outrer, c'est que quand ça a été voté, ça, l'année passée, on s'est fait dire, tous les citoyens ici, c'est un projet conforme, conforme en tout point, et on ne peut pas s'objecter à ça parce qu'on va avoir des représailles légales, des poursuites, puis on a assez de la croix encore des poursuites à poursuivre. Alors, ils sont conformes, allons-y. Et s'ils sont vraiment conformes, comment se fait-il qu'on doit changer le règlement des marges de recul pour un projet de lotissement de 41 maisons avec option de 10 en extra? Je ne la comprends pas. Où est la conformité là-dedans?
En fait, je ne sais pas si je peux m'avancer, mais il y a des choses qui ont passé sans que personne les voie, autant du côté du promoteur que du côté.
Bien là, on s'est fait accuser de dormir au gaz, madame Lalonde. Je ne comprends pas, là. Vous me dites qu'il y a eu des erreurs administratives grossières, de négligence.
Des deux côtés, autant du côté.
Oui, mais ça n'excuse rien. Là. Une erreur truffée d'une autre ne corrige pas la première. Il n'endosse pas la première.
Mais vous allez être consulté. Vous allez
Mais ça sent pas bon, là.
Est-ce qu'on va être vraiment ici pour référendaire, par contre?
Pas à l'heure actuelle. On commence par la consultation.
Il n'y a pas d'aspect
C'est pas référendaire.
OK. Mais en tout cas, devant cette situation-là, moi, je proposerais qu'on révise le nombre de résidences, à tout le moins, pour respecter les normes de marge de recul actuelles. On ne peut pas toujours changer, pousser dans la direction-là, le promoteur va aller par là, 51 propriétés, on vous les accorde. Ah, mais là, on ne respecte pas les marges de recul. Ah, on va changer le règlement zonal. Mais non, on a des règlements. C'est des règlements qu'on doit changer à tout moment parce qu'on doit accommoder nos promoteurs qui veulent développer.
Si je peux
me
permettre.
Non.
Excusez. Ça ne changeait pas le nombre d'unités, il n'y a rien qui changeait.
Bien, moi, ce que je me rappelle, s'il y a des terrains de 2000 mètres carrés là-dessus,
c'est tout petit.
Hein?
C'est des choses qui pourraient être considérées comme des dérogations mineures parce que
le règlement tel qu'il y a constitue un préjudice. Là. Ça rend ça impossible de construire.
Mais non,
ça, c'est une dérogation.
Je m'excuse, mais quand les gens demandaient de changer le règlement, vous avez répondu au conseil, si je me souviens, qu'on ne pouvait pas le faire parce que le promoteur, quand il avait acheté les terrains, tout ça, c'était le règlement, que si le règlement était changé, on risquait une poursuite. Mm-hmm. Alors, pourquoi tout d'un coup, dans l'autre sens, c'est possible de changer le règlement?
Pour accommoder des dérogations, soit dites mineures.
Ça aurait pu être 40 dérogations mineures à chaque fois qu'il y a un terrain.
Ouais, ça aurait été des dérogations. Si vous avez pensé qu'il y avait beaucoup de dérogations mineures ce soir, ça aurait été...
Oui. Non, mais écoutez, l'arpenteur qui a fait le lotissement...
Si le règlement porte préjudice, oui.
Ah, mais on s'entend que le promoteur, il veut maximiser le nombre de terrains là. C'est pas compliqué, là.
Mais là
c'est le capitalisme.
Il n'y a aucune augmentation de terrain.
Je comprends, Mme Lalonde, mais il n'aurait jamais dû avoir 51 lots proposés. L'arpenteur, il sait pertinemment les règlements des marges de recul. Mm-hmm. Il sait pertinemment la dimension des résidences qu'il va avoir là, grosso modo, entre 2000 et 3000 pieds carrés. Bon, oui. Alors ça, disant, alors il faut faire les projections. Le lotissement, c'est la règle numéro un d'un développement. Il est acceptable ou il ne l'est pas? Moi, ce que j'entends, il n'était jamais acceptable, cette affaire-là, parce qu'il ne respectait pas d'entrée de jeu les marges de recul. Là, on se fait dire, on fait changer le règlement. C'est pas cool, ça. Moi, je pense qu'on manque de rigueur, de discipline. OK, dans un avenir plus positif.
OK.
Énergie verte. Hein? On veut promouvoir notre belle énergie. On a un beau stationnement ici, public, gratuit, près de la traverse piétonnière sur le bord de Sainte-Adèle, délimité par la rue Valiquette. Alors, moi, je trouve, j'en avais parlé à Gaëtan l'autre fois quand j'étais allé me faire coiffer.
Oui.
Ça n'a pas été long. C'était pour la barbe, entre autres. Mais j'ai rencontré M. Gagné là, puis j'ai proposé mon affaire. J'ai dit, écoutez, il me semble que ça aurait de l'allure de considérer de mettre deux bornes de recharge, genre, là, des bornes de niveau 2, pas les gros mastodontes de 50, 100, 150 kilowatts, OK, de ce monde. Juste une borne niveau 2. Deux bornes niveau 2 qui est universelle, toutes les voitures peuvent les prendre avec un petit adapteur de rien. Mm-hmm. Puis ça fait cool, puis tu stationnes, puis en même temps tu te recharges. Fait que, tu sais qu'il y a des bornes de recharge de côté à la place du citoyen, n'est-ce pas là qu'il y a stationnement public?
Je peux répondre à ça, en fait, justement, parce qu'effectivement, il manque de bornes de stationnement, de bornes de niveau 2 public, de niveau 2 à public à Saint-Adèle.
Oui.
On est conscient de ça. Actuellement, avec tous les projets en service technique qu'on a, on n'a pas les ressources. Parce qu'on ne peut pas juste dire on va mettre du banc. Là.
C'est tout un projet.
Pour les implanter. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont subventionnés.
Très
heureusement, on parle de ça. Il y a deux périodes de subvention en printemps et en automne. On ne peut pas vraiment s'engager à dire on va essayer de le faire parce qu'on a tellement beaucoup de jobs puis on n'a pas prévu ça dans le budget. Donc, mais on est conscient du problème. Ça veut dire que là, c'est sur l'agenda, ça va être sur l'agenda là, de dire on va trouver des endroits pour mettre plus de monde public parce qu'il n'y en a juste pas à Bourg-Rolland. Moi, j'ai mettré dans le stationnement à la rue Deschambault avant de les mettre là parce qu'il y en a quand même deux à la place des citoyens.
Mais c'est pas le stationnement public. Oui, à la place citoyen, c'est pas le stationnement public promu, disons. Il y a un endroit bien ciblé. Mais moi, je pense que vous avez le devoir de mettre en priorité pour au moins la nouvelle administration qui s'en vient. Pour qu'ils ne commencent pas du point zéro.
Il faut trouver c'est quoi les emplacements les plus.
Moi, en tant que citoyen usagé, je vous dis que ça serait logique, et M. Gagné est tout à fait d'accord, entre autres, qu'il y en ait à ce stationnement-là.
Il y en a, mais comme il dit, à l'heure actuelle, ils sont débordés au niveau des services techniques, il faut quand même...
Je comprends, Mme Lalonde, mais peut-être le mettre à l'ordre du jour comme priorité dans la prochaine administration. Comme ça, on ne part pas de point zéro. OK. Merci de votre attention.
Pascal?
Moi, tout d'abord, c'est pour dire merci à M. Denis Paquette qui m'a supporté pour le fameux panneau et des fortiers qui va être installé prochainement au dégel. J'ai bien hâte. Merci. Aussi, j'ai eu plusieurs réponses à travers les questions d'autres gens ce soir. Moi, je fais partie du monde qui pense que le parc Doncaster ne doit pas être touché. Peu importe qui va prendre le contrôle de ce parc-là, c'est un parc qui doit rester pédestre puis pas faire 10 000 sentiers là-dedans. Ça, c'est mon avis, parce qu'il y a beaucoup d'animaux là, puis je pense que c'est dans les dernières places qui ont la paix.
pas dans les projets.
Ouais. Ouais. Puis j'en ai une question pour toi, David. Comme tu es un amant de plein air, je veux une réponse à ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Implanter du fatback sur le nom Fortier et Wizard. Des pistes intronisées au temple de la renommée du ski des Laurentides.
Est-ce que je comprends, il y a des sentiers de fat bike qui passent, qui sont
qui passent carrément dessus.
Il y a un bout de la voiture qui est très désagréable.
Moi, je vais vous dire quelque chose.
C'est partagé avec le fat bike.
Ouais, ben, j'ai vécu une expérience, puis c'est pas parce que je suis du fils à aider Fortier que je dis ça, mais l'autre jour, j'ai descendu dans cette piste-là, puis pour la première fois de ma vie, j'ai croisé 17 fat bikes consécutifs. Je peux vous dire 17. Je les ai comptés.
C'est une piste pour ça?
Ou... Non. Ah, non. Ben, maintenant, elle dit multifonctionnel, ben, mais moi, j'apprécierais qu'on trouve une autre entrée.
Pour préciser, dans... là, il y a un bout de la Wizard actuellement qui est partagé, ski et raquette et fat bike. Ah, ouais. Puis il y a un pont très douteux là, en bas, quand tu descends, puis c'est glacé, puis il ne faut pas abandonner.
Dans ce cas, moi, je juge que ce n'est pas une bonne idée.
Je veux dire que là, je trouve que, personnellement, je trouve que ça n'a pas l'air, mais je pense que là, c'est pas... C'est pas nous, là. Il y a des gens qui sont en fait de ça, puis là, il y a des plans pour mieux aménager ça.
Ben,
parce
qu'en effet,
un peu se croiser les usagers de cette façon-là, ouais. C'est désagréable.
J'invite les décideurs qui prennent les décisions pour ces situations-là à revoir leur façon de travailler. C'est tout ce que j'ai à dire.
Merci, Pascal. Merci. Daniel Bergeron.
Daniel Bergeron, je suis président de l'Alliance Saint-Adèle. En fait, j'ai plus de réponses que de questions. Vous m'interrompez si c'est hors d'ordre. Monsieur Paquette, 60 km de sentiers de ski nordique, 20 de ski classique, à peu près. Ça, c'est la communauté de Saint-Adèle. C'est sur tout le territoire. 60 km de sentiers de vélo, puis 70 de randonnée. Donc, on est à peu près balancé dans tous les sports. Là-dessus, il faudrait que j'ajoute un 40 km de sentiers de ski qui sont malheureusement temporairement inaccessibles. Parce que les propriétaires nous bloquent, on est sur des terrains privés qui nous bloquent, on essaie de retrouver des droits de passage. Avec l'aide de la ville de Saint-Adèle, on en récupère entre 2,5 et 5 cette année. Donc, 250 km de sentier, grosso modo, 200 sont accessibles, 60 au vélo, après ça, on se passe, on est assez balancé, c'est pas du tout au vélo, là, on essaie de partager. Notre budget, les trois dernières années, 2023, 2024, 2025, on ferait 300 000 par année. Puis on ajoute à peu près un équivalent de 100 000 heures bénévoles par année. Pas 100 000 heures, c'est 100 000 $ de temps bénévole. Le montant de 85 000 que nous donne la ville de Saint-Adèle, on multiplie par 4 par les levées de fonds auprès des usagers, des commerçants, des commanditaires, des subventions qu'on va chercher. Donc c'est un levier pour aller chercher des subventions, beaucoup. Puis c'est à peu près l'équivalent du coût de traçage des sentiers de ski et de grosso modo, mais ça peut être, j'aurais pu dire, la mise à niveau des sentiers de ski. Il va y avoir 300 000 $ de mise dans le parc du Mont-Loup-Garou, 200 000 grâce à des subventions, 50 000 grâce à la communauté qui va faire ça, puis 50 000 sur la ville. C'est ce genre de partenariat qu'on a. Je m'adresse à vous, mais je regarde. On met beaucoup d'efforts dans la communauté de Saint-Adèle, puis notre première préoccupation, c'est le maintien des activités de plein air et les garder accessibles à la ville de Saint-Adèle. Aux citoyens de Saint-Adèle. On n'est pas partie prenante aux discussions entre la Chambre de commerce et la Ville pour la gestion du parc des Castors. La seule chose qu'on a dit à la Ville de Saint-Adèle, nous, ce qui nous préoccupe, c'est de maintenir l'accès à la communauté, à ce parc-là. Et si vous avez besoin d'aide, on va aider. C'est tout. On est capable d'aider, on va le faire, on a du bénévolat. Et on n'est pas des prédateurs. On ne cherche pas de contrat, on a assez de sens à s'occuper. Mais s'il faut qu'on donne un coup de bain pour le parc, on va le faire. Même chose à Loup-Garou, même chose au Mont-Badi, un peu partout. Notre préoccupation, c'est celle-là.
Dans premier approche que je pouvais faire, c'est que Mont-Vanin a été ignoré pendant des années.
Ah, mais là, on travaille fort à Mont-Vanin.
Oui, mais pourquoi? Pourquoi vous avez commencé à travailler à Mont-Vanin? Parce que vous avez implanté le vélo. C'est correct. Mais à votre place.
On se préoccupe des sentiers de ce qu'ils font. On a rétabli le
sentier
de
l'air,
entre autres. Et ce que Pascal explique, vous savez, c'est à peu près 100 mètres la coexistence des sentiers.
Parce qu'il y a la golf aussi, je veux dire, l'embranchement,
des vues. Ça, c'est peut-être une nouvelle golf.
Mais il faudrait. Je ne veux pas que ça devienne.
Non, on va régler ça après.
On peut le faire après. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a bien sûr des terrains.
C'est la bonne politique que tu as en ce moment,
mais le terrain, c'est des tolérances qu'on a. On n'est pas chez nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout faire ce qu'on veut. Et qu'on limite un peu notre. entreprise, mais on est disponible info à Pernin Saint-Adèle, où vous venez me voir, j'ai ici presque toutes les séances, ou à part ça, ça va vous faire plaisir.
Parfait. Ce que je comprends, c'est que si vous refusez de prendre le Doncaster, ça veut dire que ça va rester à la Chambre de commerce. Vous pourriez donner un coup de pouce au commerçant.
En fait, il est notre petit
OK, excusez.
Il y a des revenus générés par le PNR. On propose qu'ils soient réinvestis dans le PNR, si c'est possible, ou dans la protection des intérêts personnels. C'est notre seul
préférence. OK, Madame Poirier, s'il vous plaît. Madame Poirier.
Doris.
Doris.
Madame Poirier.
Non, Poirier.
Mes oreilles ne sont pas extraordinaires, je comprends à peu près la moitié de ce qu'ils disent. Je voulais avoir des informations au sujet du développement sur la rue Lavillière. Quelqu'un, il va avoir là 60 portes. Et puis là, vous me dites qu'il y a une partie importante qui devrait devenir une réserve naturelle. Comment ça va fonctionner? C'est quoi là? C'est...
Je pense que le promoteur est en discussion avec un peu Éco-Corridor pour trouver le meilleur moyen de faire ça, que ce soit par droit écologique ou autre façon. C'est tout ce qu'on sait pour le moment.
Donc, ce n'est pas nécessairement une réserve naturelle. Réserve naturelle, c'est le gouvernement qui donne ce statut-là.
Oui, ça, c'est encore... Vous m'avez pris dans mes clous en utilisant un terme juridique que je n'aurais pas dû utiliser. Ça va être un terrain protégé d'une certaine façon, que ce soit par don écologique ou autrement. Réserve naturelle, je suis conscient que ça, c'est une définition très précise dans la loi. Moi, je ne suis pas avocat. Désolé.
Moi non plus, je ne suis pas avocate.
Mais vous avez déjà été avocate. Moi, je n'ai jamais été avocate.
C'est une ex. Voyons, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Moi, c'est ça. Est-ce que cette portion de terrain-là, elle va demeurer la propriété des propriétaires en question, ou ça va être donné, ou c'est...
Je pense probablement donner soit à la ville ou mettre en fiducie ou donner à un organisme de conservation, mais on n'a pas des détails à ce moment-là.
Parce que le promoteur ne pourra jamais rien faire.
Non,
il
ne pourra rien.
Il peut juste développer l'eau. Le reste,
non, mais est-ce que c'est de savoir si la société de protection...
Ouais, c'est ça.
Comment vous dites?
Mais est-ce que la société de protection peut faire une approche envers le promoteur?
Nous autres, nous autres, moi je n'ai pas le droit de parler, là, mais normalement, c'est les gens qui nous approchent. Okay. Puis, si ça convient, si Éco-Corridor est dans ça, c'est des gens qui sont très...
Ben, je pense qu'ils
puis qui savent aller chercher les partenaires là où ils sont. C'est pas inquiétant, là. Bon, OK. OK, mais 60 portes, c'est beaucoup, là.
Oui, c'est des collés. C'est pas des bungalows. Là.
Non, je comprends, mais 6 blocs de 6 portes, 6 blocs de 4 portes.
Ouais.
C'est gros, moi. Moi aussi, je suis un petit peu inquiète du déboisement qui est en train de se faire. Même si c'est proche du centre-ville, là, il reste que c'est bien beau, là, mais il faut d'abord s'assurer qu'on a ce qu'il faut pour faire fonctionner ces gens-là dans la ville, les écoles, les hôpitaux, les je sais pas, là, mais tu sais, faut mettre un petit haut-là là-dessus, moi, je serais pas contre ça.
Je suis tout à fait d'accord.
Ouais. Et puis, bon, pour ce qui est du lac Doncaster, moi, je déplore aussi que la Chambre de commerce soit exclue. Je pense qu'on se prive, je comprends pas, là. S'il y avait eu une chicane, s'il y avait eu quelque chose, je comprendrais, mais ça a pas l'air que c'est ça. Alors, vous avez toujours le temps de changer de ville, non?
Oui. Il y a juste des fous qui changent pas de ville. Madame Desrosiers.
Je m'appelle Lucie Desrosiers, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Ma question, ça concerne le projet de règlement 13-14-2021-L2. J'aimerais ça comprendre ce que ça veut dire. Donc, lorsqu'une opération cadastrale vise la subdivision d'un lot afin d'aménager un parc, un terrain de jeu, un espace naturel ou un sentier, il n'est pas requis d'exclure la superficie occupée par un milieu humide dans le calcul de la superficie restante.
Ouais. C'est par rapport justement à côté d'une réserve naturelle.
dans le coin du parc du Mont-Loup-Garou, il y a un autre terrain qui a été acquis par la ville, par le biais de la biodiversité. Ce terrain a besoin d'être loti pour conserver la partie milieu humide. Puis c'était impossible dans les règlements de faire le lotissement de ce terrain pour séparer la partie milieu humide que la ville voulait acquérir là, de la partie du terrain.
OK, parce que je ne comprends pas plus.
Oui, c'est ça, c'est pas super clair. juste pour dire que parce que là, c'est une contribution, pour faire une part qui va être conservée.
Parce que là, ce qu'il y a décrit dans votre règlement, c'est que d'abord, c'est quoi la superficie restante? Est-ce que c'est la superficie développable? Puis là, vous me parlez d'un calcul qui va s'appliquer à la grandeur du territoire.
C'était pour des cas d'exception, là. En tout cas, je sais qu'on l'avait
discuté de ça.
Mais
dans le fond,
c'est que là, présentement, pour faire un lotissement, il faut qu'il y ait une superficie minimum construisible sur le terrain. Là, quand on lotit, la majeure partie du terrain, ça ne peut pas être un milieu humide, à moins que ce soit vraiment un gros terrain, là, puis qu'il reste une bonne partie déjà construisible. Mais dans le cas où on voudrait faire un parc, par exemple, ou une conservation de milieu humide, où ouais. On ne pourrait pas présentement faire un lotissement. Fait que dans le fond, on est venu ajouter une exception. Là,
mais je pense qu'elle n'est pas claire. Elle n'est vraiment pas claire.
Il va y avoir une consultation publique où l'urbanisme va
non,
expliquer
y a pas
ça dans les termes.
Écoutez, il me semble que j'ai vérifié.
Oui, le 4 mars, on va récupérer.
Il n'y a pas de consultation publique, en tout cas, sur votre avis.
Ça, c'est pas encore l'avis pour le...
Mais c'est l'avis de motion, maman.
Oui, c'est écrit dans la résolution d'adoption du projet.
Oui, c'est dans la
résolution. C'est pas écrit dans le règlement, mais dans la résolution.
OK. Puis l'autre chose que je comprenais...
C'est le 4 mars à 18h30 ici. Ça va être expliqué en beaucoup de détails avec des images qui vont montrer... Vous aurez le droit de poser toutes les questions à des gens qui sont beaucoup, beaucoup plus... capable de les répondre que moi.
L'autre chose que je ne comprenais pas non plus, c'est... là, on parle du projet de règlement 13-14-2021-L, mais il est inscrit comme 13-14-2024-L2.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'on a un 2024? Est-ce que c'est un nouveau règlement?
Non, c'est un amendement. Le règlement qui a été adopté en 2021.
C'est
2021. Ah,
c'est
merci.
Merci beaucoup. Merci.
Chez les tournées.
Bonsoir. Plus de voix, à force de vous écouter, je parlais à mesure quasiment. J'ai une question pour peut-être M. Gagné. Très, très simple. Victoriaville a proposé une éco-fiscalité, c'est-à-dire 25 $ par mètre carré de développement de la canopée. Est-ce qu'on pourrait envisager un règlement qui pourrait ressembler à ça ici?
C'est
quoi le règlement exactement?
OK. Est-ce que vous pourriez peut-être communiquer avec des gens de Victoriaville pour voir comment appliquer ça? Parce que ça semble.
La fiscalité, c'est quelque chose de nouveau qu'on peut utiliser dans les
villes. C'est nouveau, puis ça permet d'avoir des fonds. On cherche des fonds de toutes les manières possibles et impossibles. Alors,
il y en a qui le font sur les stationnements aussi. Là.
Oui, c'est ça. Deuxième question qui va dans le même sens. Si Tremblant peut taxer des commerces, on a parlé de commerce tantôt, au niveau restaurant, ainsi de suite, pourquoi nous autres, on n'est pas capable de le faire? Parce qu'on a peur de tuer nos commerces parce qu'ils sont déjà à côté?
C'est pas la même clientèle, je veux pas être méchant.
C'est pas la même clientèle, OK.
C'est qu'au jour golf à 150, 180 pour un départ, c'est le moyen de... C'est pas la même clientèle qu'on a.
C'est pas la même clientèle, OK.
Là, l'espace de la taxe qui est ajoutée?
Oui, oui. Dans un restaurant, c'est une station touristique. Là.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
C'est ce qu'on n'a pas vraiment. Okay. Donc, on pense à d'autres choses que ça. OK. Ce soir, j'écoutais les commentaires, puis j'ai l'impression qu'il y a une expertise dans la salle, je parle des citoyens, qui est extraordinaire. Puis, je vois dans le sens un peu de M. Huard ou de Mme ici qui a pris la parole au niveau de la démocratie. Je trouve que je sens qu'on est asphyxié au niveau des citoyens, c'est-à-dire que la période de questions, là, c'est stressant, c'est faut que ça soit vite fait, vite dit, puis go, puis il y en a un autre qui veut poser une question. On ne pourrait pas envisager d'avoir une autre rencontre que la réunion du conseil où on pourrait débattre, discuter, échanger. Tu sais, je viens de donner un exemple à propos d'une taxe que, bon, on dit, bon, c'est plus ou moins pertinent. Je sens qu'on manque d'une occasion de réfléchir et de travailler ensemble beaucoup plus de façon collégiale, beaucoup plus sereine, beaucoup plus productive. Tu as parlé tantôt, excuse-moi, je dis-tu, du mouvement Helios. C'est la première fois que je n'entends Helio. Bon, c'est la première fois que je n'entends parler. Ça a l'air très intéressant au niveau de l'environnement. Moi, je sens qu'on est une société, une communauté qui est assiégée, qui est inquiète, qui est en train qui a un constat de perte et d'envahissement, puis que c'est pas du domaine de l'imagination, c'est concret.
Mais tu parles de rencontres plus structurées ou de
ça peut prendre
tout. Le café de la mairesse,
moi je veux juste chercher quelque chose de plus politique, de plus officiel.
Puis, tu sais, quand c'est la peur de beaucoup de pays aujourd'hui, malheureusement. Nos voisins américains.
De?
Ben, l'envahissement. Puis, dans le fond, ça fait peur d'avoir des nouvelles personnes.
Ben, okay, je vais
même en Europe, c'est la droite qui okay. pousse au bout.
Je vais terminer.
Non, mais lui, il parle d'avoir des rencontres.
Non, mais là, je parlais avant.
Oui. Est-ce que quand je participe au café de la mairesse, c'est vraiment un lieu d'échange, de débat.
C'est parfait.
Mais il faudrait que ça soit
plus pointu. Ben oui.
Peut-être
qu'il y a un sujet. Ah oui, je vais terminer juste sur un point, puis après ça, je vais aller m'asseoir. Quand on parle d'envahissement, quand on parle de perte, puis d'avoir, quand un développement, que ce soit construction Raymond, que ce soit ainsi de suite, moi, je suis allé à l'hôpital deux fois en six mois. Okay? Une fois pour ma blonde, puis une fois pour moi. Ma blonde, elle s'est coupée au mois de juin un mollet. Je compte juste l'événement pour vous montrer comment on est à côté. Mm-hmm. Okay? Il y avait une radiologiste qui travaille à Sainte-Agathe. Il y en a une seule. Elle travaille 4 jours semaine. Elle a 71 ans. Okay? Je ne sais pas s'ils l'ont remplacée ou s'il y en a ajouté une deuxième depuis ce temps-là. Elle s'est fait ça un vendredi. La radiographie était le lundi. Alors, je fais juste vous illustrer que quand on ouvre la porte à un développement, ça ouvre la porte à tout, on met une pression sur tous nos services, puis on est saturé, on est à côté après un niveau. Fait que moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut un moratoire, puis ça urge. Ça urge parce qu'on n'a pas les ressources pour pouvoir affronter l'afflux. Ce n'est pas une question d'être de gauche, de droite, d'être de Trumpiste ou ainsi de suite.
Toutes les villes pourraient dire ça, c'est ça.
Ben, il y a des villes qui le disent. Il y a des villes,
je pense.
Mais je pense qu'il faut avoir le courage d'au moins se poser la question.
Oui, comme je
l'ai
dit, on l'a
mentionné. Il faut les mettre dans les endroits où ils sont capables de les accepter sans nuire au mode de vie de ceux qui sont là en termes existants. On pourrait avoir un débat là-dessus. Bon, on pourrait avoir un gros débat. Fait que, mon deuxième exemple, je suis allé encore à l'hôpital il y a à peu près un mois pour un autre problème de santé. Je suis arrivé là, j'avais le numéro 21 à 11h le matin. À 7h le soir, j'étais le numéro 17.
Ah non, écoute.
Bon, fait que moi, j'ai dit, je m'en retourne chez nous, je vais appeler mon médecin de famille, je vais régler autrement mon problème. Fait que, mais je vais vous donner un dernier exemple. Domaine Douville, l'été, il y a une plage puis un petit quai. Okay? Oui. Le petit quai, là, j'ai compté une journée d'un samedi de canicule, il y avait 48 chars. C'est trop de monde. Les riverains qui sont autour, ils sont envahis.
À Douville,
il y a un petit quai.
Oui, je sais, mais bon, 48 chars.
48 chars, je les ai comptés un samedi après-midi où il faisait 30. OK? La rue Sigouin, ce matin, 5 minutes pour me rendre au stop, il y avait 11 chars devant moi à 9h le matin. C'est tout ça, notre ville est saturée, est remplie d'exemples, on n'est plus capable. Fait que là, on continue de donner des permis pour faire des gros développements. Je veux bien croire qu'ils ne sont pas pleins, ces développements-là, non. Mais c'est du trafic, c'est de la pollution lumineuse, c'est de la pollution sonore, c'est de la pollution atmosphérique.
C'est sûr, dans l'idéal, on reste à 6 000 de population.
Ben oui, mais pourquoi pas l'envisager?
Mais là, on fait un
ben oui,
c'est ça que tu veux.
Non, mais c'est ça qu'il dit. Non, mais moi, je vais d'un côté, mais
les fois... Faire
bien
les choses, c'est ça que
vous dites. Oui, non. En fait, on est d'accord avec ce que vous dites.
On est d'accord, mais c'est vraiment à dire qu'il n'y a plus d'humains qui vont venir à Saint-Adèle. On est tous
À 80% ici du monde de la ville.
Non, non, non.
À part toi, peut-être qu'il est né ici. Là.
Non, non, non.
Mais en entour de la table, on vient de Montréal.
Non, non. Je viens d'acheter un gars maison neuve. Non, mais c'est juste pour dire. C'est juste pour dire qu'il faut, travailler ensemble.
Oui. Ben oui, je suis
d'accord. Puis des discussions comme ça, c'est pas la place.
Non, je sais. Bon. Tu me parles des soins de santé, c'est le même à grandeur du Québec.
Ben oui, je sais.
Pas Saint-Adèle.
Non, mais c'est un exemple.
Tant que c'est de la santé à soi, c'est
pas. OK, 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 s'il vous plaît. Ça veut finir nos questions. Madame Briard.
Des fois, j'ai des bulles au cerveau. Je me demande encore qu'est-ce que je veux faire à me représenter. Mais bon, j'aime
oui,
ça.
Oui, mais moi aussi, je me pose.
660 portes que j'ai calculées là, vite, vite, avec Claudine là, depuis le mois d'octobre que vous avez discuté dans vos plans de lotissement, etc. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui s'est dit. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que 660 portes locatives, en plus, c'est tout du locatif. Au niveau de la fiscalité, on dépend des taxes de bienvenue beaucoup. 660 portes qui s'ajoutent sans jamais avoir de taxes de bienvenue à chaque fois que ces humains-là, comme Gaétan a dit, vont déménager. C'est juste que, en tout cas, je vous dis ça, c'est moi, ça m'inquiète. On est jusqu'à présent 3 ou même 4 candidats à se présenter aux élections à Saint-Adèle. Moi, je trouve ça parfait. On parle de démocratie, c'est quand même bien. J'espère juste que le monde va aller voter. Mais outre ça, vous prenez des décisions actuellement qui vont comme un petit peu pas attacher les prochains conseils de ville, mais
non, je suis d'accord.
Je pense que vous voyez où je m'en vais. Hein? On parle grosso modo des dépenses là, que vous avez accordées, que vous allez accorder par des règlements d'emprunt de pas loin de 800 000 $ par Claude Cardinal et la bibliothèque. Je ne dis pas qu'on n'a pas raison de refaire le parc, qu'on n'a pas raison de refaire la bibliothèque. Je pense qu'on a des besoins. Mais reste que là, ça va, vous allez travailler avec votre vision à vous pour les 6 prochains mois. Puis en septembre, vous allez voir les programmes électoraux sortir. Et peut-être que vous allez juste prendre tous ces plans-là et les sacrer au vidange avec l'argent qui va avec. Est-ce que vous êtes tous conscients de la situation?
En fait, effectivement, on est conscients. Mais il y a des choses qu'on hérite et que d'autres vont hériter. Ça fait partie de la guerre.
On a hérité
plein
de projets.
On
ne
peut pas
mettre pause
sur les projets. Ben, je suis entièrement d'accord, Ariel. Mais de dessiner des plans et de vie d'une bibliothèque qui s'en va à côté de la place des citoyens quand que...
Ou de la réflexion de la Rivalicette, par exemple.
Ben la réflexion de la Rivalicette, elle était déjà faite quand tu es arrivé, David. Je veux dire...
Si on
ne
fait pas tout de suite, là, on peut dire bye-bye.
Ben moi, je vais vous mettre les choses au clair tout de suite. Je ne la ferai pas là, la nouvelle bibliothèque, si je suis élue. C'est pas là du tout qu'elle va aller. Fait que je vous mets au moins les cartes sur table pour que la population soit au courant.
C'est bon parce que
c'est pas là, moi, ma vision à moi. Non, non, mais ma vision à moi et la vision des gens à qui j'ai parlé, ce n'est pas là qu'elle va. Actuellement, je ne vais pas vous dire où est-ce que je la vois actuellement. Mais actuellement, on paie pas loin de 78 000 $ par année avec Olymbec. Et on est là jusqu'en 2028. Donc, je ne vois pas l'urgence avant le mois de novembre d'aller faire ces plans et devis-là.
Mais c'est... Ariel,
je veux juste te dire que c'est... Je ne vois pas l'intérêt de dépenser. Par Claude Cardinal, je suis d'accord, le pickleball... Il fait dur, on a besoin de le refaire, on n'a pas loin de 250 joueurs, puis je suis entièrement d'accord avec ça. Mais on a, reste que c'est un parc que vous voulez faire à 3,5 millions avec votre vision encore à vous, et non pas celle des prochains élus. Donc.
Mais moi j'ai une question, si ça prend 5 à 6 ans monter un dossier là, pour avoir accès aux subventions, sinon aucune ville peut se permettre de construire une bibliothèque, comment on fait
s'il y a
un mandat dure juste 4 ans?
Ben, habituellement, vous le préparez durant votre campagne électorale. Vous le savez ce que vous voulez faire. Année 1, année 2, vous cannez tout ce que vous voulez. Je veux dire, ici, on a des élus, là, madame, vous avez siégé comme mairesse à Rosemont. Vous savez très bien que 6 mois avant les élections, on n'essaie pas d'attacher les mains des futurs élus. C'est ça que j'essaie juste de vous dire ce soir. Monsieur Lamarche a travaillé pendant combien d'années? 20 ans, 25 ans, conseil de ville? C'est un peu traître.
Et la bibliothèque, ça fait 2 ans que je travaille là-dessus.
Bien, regardez, ça fait 2 ans. Les plans et devis auraient dû être faits, ça fait 2 ans.
Et on a réussi à avoir une extension, là, si on a, on, on n'était pas censé avoir l'extension pour le local.
Ça devait être 2026.
Donc, on se serait retrouvé pas de bibliothèque, pas d'endroit pour la bibliothèque.
Je comprends les décisions que vous avez à prendre, mais moi, quand j'ai décidé au mois de mai, en 2021, que je ne me représentais pas, la seule affaire que je voulais canner, c'était l'éco-centre, qu'on avait acheté le terrain, puis c'était fait, c'était l'urgence, et le trottoir. Le restant, là, j'ai dit, on ne touche pas. Bien, le parc du Louis-Arrou, il était déjà réglé, c'était déjà canné. Mais le restant, on a tout mis sur pause. On avait discuté avec le directeur général pour dire, regardez, à part les urgences, ça sera le prochain conseil de ville qui va avoir sa vision et qui va décider.
Mais pourquoi c'est tu ne partages pas l'idée?
Ben, je ne vais pas la partager avant d'avoir partagé avec toutes les autres qui se présentent avec moi. La question, c'est, je voulais juste savoir s'ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Ils vont engendrer 800 000 de dépenses et les prochains élus vont peut-être juste tirer la plug sur tous ces projets-là. Et on va tout payer pour ça. C'est de là ma question. Oui, ils sont conscients de l'argent qu'ils vont dépenser en sachant très bien qu'il y a d'autres élus qui vont
se présenter. Je peux te répondre de ma part. J'ai été élu pour 4 ans et je vais travailler jusqu'à la dernière minute.
Parfait, JF.
Parfait. Et M. Nagui, c'est le dessert.
Oui, écoutez-vous. On ne vient pas me battre. Je veux juste savoir, concernant ce que vous nous avez dit pour les tests des terrains de golf, est-ce que le golf alpine est sujet à...
Oui.
Il est.
Bon, mais il n'y a pas de règlement.
Je comprends.
Lorsque...
Ouais. À partir du moment où le règlement est adopté.
Okay. Dans le fond, d'accord. Si le lotissement est fait avant que le règlement soit adopté, il ne sera pas assujetti.
OK, mais là, vous allez essayer de ne pas donner le OK sur le lotissement avant que ça soit réglé, parce que ça va causer tellement de problèmes. Chaque acheteur de terrain va être obligé de faire un test de sol avant de prendre une hypothèque. Ça va être un bordel pendant des années pour une cinquantaine de maisons. Donc, assurez-vous de ne pas donner le permis de lotissement avant que ce règlement se fasse. Dernièrement, je suis d'accord avec M. Gagné de féliciter les travaux publics. On a un service extraordinaire. Au cours des 6 derniers mois, j'ai eu affaire avec le service 2 fois. Téléphone, il vous rappelle immédiatement à l'intérieur de la journée même. Ils donnent un rendez-vous. Ils sont arrivés 10 minutes en retard.
Les nuisances étaient réglées aussi.
Et comment?
Les nuisances.
Non, mais je parle de aussi sur le boulevard Saint-Adèle.
Ah, oui.
Service impeccable. Oh. Merci.
Merci. Est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée?
Il est en gagné pour moi.
Est-ce qu'on est d'accord?